Merci pour ton grand amour, Père, renouvelé encore en ce jour. Merci parce que tu nous rassembles en ce lieu afin de parler à nos cœurs. C'est pourquoi nous te prions, ô Père, ne te tais pas ce soir, mais parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ta servante écoute. Parle, ô Père, parle au cœur de chacun. Enseigne-nous tes voies et donne-nous de mettre en pratique ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ, comme des instruments, nous nous mettons entre tes mains, Père. Utilise nos voix, nos mouvements pour transmettre, pour véhiculer ta pensée. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut manifester cette joie? Alléluia. Moi-même, je suis... Merci. Moi-même, je suis dans la joie d'être là parmi nous ce soir. Et nous avons déjà commencé hier notre café chrétien. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer encore, d'aller de profondeur en profondeur. Et Dieu a mis dans mon cœur une pensée particulière pour aujourd'hui, une pensée que j'ai depuis Kinshasa, lorsque j'ai su que je devais travailler dans ce café chrétien. J'avais senti dans mon cœur s'imposer cette pensée que j'aimerais nous partager ce soir, cet après-midi. Alors si vous avez vos Bibles, aidez-moi à les ouvrir dans le livre de 2 Rois, chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17. 2 Rois 17. 2 Rois 17. Nous allons lire à partir du verset 24. 2 Rois 17, on va lire à partir du verset 24 jusque dans les versets qui suivront, je nous dirai là où nous allons devoir nous arrêter. 2 Rois 17. Vous y êtes? Ok. Demande à ton voisin s'il y est. Tenez, est-ce que vous y êtes en haut? Tenez, vous y êtes? S'il te répond, il dit « Nous y êtes ». Ah, là, il y a un grand souci. De Rois 17, 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie, à la place des Israélites. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas le Seigneur, et le Seigneur envoya contre eux les lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as exilées, que tu as fait habiter dans les villes de Samarie, ne connaissent pas la règle du Dieu du pays. » Il a envoyé contre elles les lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la règle du Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Faites aller là-bas l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas. » qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la règle du Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre le Seigneur. Mais chaque nation faisait ses propres dieux. Ils les placèrent dans la maison des hauts lieux qu'avaient bâti les Samaritains, dans les villes où chacune des nations habitait. Les gens de Babylone firent Soukhot-Benot. Les gens de Kout firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Les Avites firent Nibaz et Tartak. Les Sepharvaïtes jetaient au feu leurs fils pour Adramelech et Anamelech, dieu de Sepharvaïm. Comme ils craignaient aussi le Seigneur, ils nommèrent n'importe qui parmi eux comme prêtre des hauts lieux. ses prêtres officiaient pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient le Seigneur Yahvé, mais ils servaient aussi leur propre Dieu selon la règle des nations d'où on les avait exilés. Jean chapitre 4. Jean 4, ici à la source, on connaît très bien ce passage de Jean 4. On va commencer par le verset 1. La Bible déclare ceci dans Jean 4 à partir du verset 1. Jésus ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En fait, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source, c'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Oh, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu toi plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Merci. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ, et quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que cherches-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ? » ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. » Les disciples disaient donc les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson. Eh bien, moi, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En effet, en cela, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de la parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Quelqu'un a dit Amen. Une jeunesse bâtie sur le roc. Nous sommes en train de parler de Jésus. Nous sommes en train de célébrer Jésus durant cette semaine. Alléluia. Moi, je suis convaincu qu'il faut que de plus en plus, il y ait dans l'église du Seigneur des prédicateurs qui viennent et qui nous parlent de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on nous parle de tout. On nous parle de beaucoup de principes pour réussir, de beaucoup de clés pour arriver au succès, mais on nous parle très peu de Jésus. Il est important que l'auteur du succès lui-même soit connu des fidèles de plus en plus. Alors moi, je suis un prédicateur qui parle beaucoup de Jésus. Vous allez m'excuser, mais toute cette semaine, je vais exalter Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux parler de Jésus ? Est-ce que tu peux m'encourager à parler de Jésus? Je vais parler de Jésus encore. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, la Bible déclare, Jésus a entendu dire, il a entendu dire, il a entendu qu'on disait qu'il faisait et baptisait beaucoup de disciples, beaucoup plus de disciples que Jean-Baptiste. La Bible déclare, lorsqu'il a entendu cela, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Mais alors qu'il retournait en Galilée, la Bible dit, or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Je ne sais pas pourquoi je souris, mais je sens que j'ai envie de prêcher. Alléluia. Ça me fait du bien lorsque je parle de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai été créé. Je ne sais pas pourquoi toi tu as été créé, mais moi j'ai été créé pour ce genre de moment. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que je dois parler de Jésus, il y a un sourire qui traverse ma bouche là. Même si la technique est contre moi, vous êtes contre moi, tout va bien. Alléluia. À chaque fois que je dois prêcher Jésus, il y a un petit sourire qui traverse mon visage, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime ces choses. C'est ma passion. Toi, tu es appelé peut-être à être couturier. Moi, je suis appelé à faire ça. Alors, encourage-moi bien pour que je continue. Alléluia. La Bible déclare, Jésus a entendu dire qu'il faisait et baptisait beaucoup plus de disciples que Jean. Et lorsque Jésus a entendu cela, la Bible déclare, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Et la Bible dit, or, sur son chemin de retour, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il quitte la Judée, c'est là qu'il était, c'est là qu'il est en train d'œuvrer. Et vous savez, Jean parle du ministère de Jésus en Judée. Jésus est en train de faire les disciples. Il faisait des disciples. La Bible déclare, et il baptisait des disciples. On apprend, ce type-là commence à avoir beaucoup plus de succès que Jean, Jean-Baptiste. Et certainement, on a voulu le mettre à mort. La Bible déclare, il quitte la Judée pour retourner en Galilée. Mais sur son chemin de retour, il fallait qu'il passe par la Samarie. Lorsqu'on lit ça, à première vue, on ne comprend pas quel est le mystère qui est caché là-dedans. Mais laissez-moi vous l'expliquer, frères et sœurs. Il quitte la Judée pour retourner en Galilée. Galilée, c'est là où il a grandi. C'est dans une ville de Galilée appelée Nazareth que Jésus a grandi. C'est pourquoi on appelle Jésus le Nazaréen. Okay? Et c'est pourquoi on l'appelle aussi l'homme de Galilée. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Parce que c'est là qu'il a grandi. C'est là que Joseph, lorsqu'il est retourné d'Égypte, après avoir fui la colère d'Hérode, lorsqu'il est retourné d'Égypte avec Marie et le petit enfant, il est allé s'installer, la Bible déclare, en Galilée, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ainsi, rentrer en Galilée, au fait, en d'autres termes, c'est rentrer dans le lieu où il a grandi. Rentrer en Galilée, ça veut dire, en d'autres termes, rentrer là où il y a la maison de son père, Joseph, son père adoptif. Rentrer en Galilée, ça veut dire, en d'autres termes, rentrer dans un lieu, entre guillemets, de sécurité. La Bible déclare, il est allé en Judée pour prêcher, on lui a cherché des problèmes, il dit, je rentre en Galilée, je rentre dans la maison du Père. Mais la Bible dit, sur son chemin de retour, il fallait nécessairement qu'il passe par la Samarie. Si Galilée, c'est l'image de la maison du Père, la Samarie, c'est l'image des païens. Plus tard dans le texte, on lit, la Bible déclare, or les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Les Samaritains, c'est comme les premiers païens bibliques. Les premiers païens de la Bible, les Juifs ne voulaient rien avoir de commun avec les Samaritains. Il y a même des lois des Juifs qui disaient que celui qui mange avec un Samaritain sur une même table devient impur comme le Samaritain. Samarie, c'est un endroit où les Juifs ne peuvent pas aller. La femme samaritaine, d'ailleurs, lorsque Jésus lui demande à boire, elle lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine? Et Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, en train de spécifier, dit, les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les samaritains. Il est en train d'œuvrer en Judée. On lui cherche des problèmes, il dit, je rentre en Galilée. Mais sur son chemin de retour, il fallait qu'il passe par ceux qui sont considérés comme des païens. C'est sur son chemin de retour qu'il est passé par la Samarie. Sur son chemin d'aller, il n'est pas passé par la Samarie. Le contexte montre qu'il est directement allé en Judée. Il a quitté Galilée, directement vers Judée. Mais la Bible déclare, il fallait qu'il retourne en Galilée. Cette fois, quand il devait retourner, il fallait qu'il passe par la Samarie. Parce qu'il avait une rencontre à faire avec une femme, là, dans la Samarie. Jésus est capable de laisser toutes ses activités pour venir rencontrer une seule personne. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. Et pour moi, ce passage résume même la mission de Christ sur cette terre. Il a quitté le ciel, la maison de son père, il est venu en Israël. Lorsque des païens venaient pour lui dire, viens au secours de ma fille qui est malade. Écoutez ce que Jésus répond à la femme syrophénicienne, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. C'est comme ça qu'il qualifiait les païens, ceux qui n'étaient pas juifs. Les non-juifs, c'est comme ça qu'on les qualifiait. Le salut n'était pas pour eux. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les donner aux chiens. Ça, c'est sur son chemin d'aller lorsqu'il est venu. Sa mission était de venir sauver le peuple d'Israël. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'il a fini sa mission, sur son retour pour rentrer au ciel vers la maison de son père, il fallait qu'il passe par nous, les Samaritains. Et plus tard, il fallait qu'il passe par les païens. Il fallait nécessairement qu'un peuple qui n'est pas juif entende aussi la proclamation de la bonne nouvelle. Et c'est comme ça, lorsqu'il a fini sa mission et qu'il était sur son chemin retour vers le père, qu'il est passé pour nous sauver, nous aussi. Ce que j'aime avec ce Jésus-là, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui encore, il est ici pour toi et pour moi. Il arrive auprès d'un puits que Jacob avait donné à Joseph, son fils. La Bible déclare, ce puits était près de Sychar. Lorsqu'il arrive auprès de ce puits-là, il était fatigué, tellement fatigué du voyage que Jésus s'est assis. Alors qu'il s'est assis, il a envoyé ses disciples pour aller chercher à manger. Ses disciples sont partis chercher la nourriture qu'ils devaient emmener au Seigneur. Ils sont non seulement partis chercher à manger, ils sont aussi certainement partis chercher à boire.
Et ce jour-là, lorsque Jésus est assis auprès du puits, une femme samaritaine vient vers Jésus. Une samaritaine. Une femme. À l'époque, les femmes n'étaient pas considérées. Eh bien, déclare même les disciples de Jésus, lorsqu'ils sont venus, ils se sont étonnés de le voir parler à une femme. Pourquoi c'est si étonnant? Un rabbin de la trempe de Jésus ne pouvait pas avoir de contact avec les femmes. Mais Jésus s'est assis là pour parler même à ceux que la société négligeait. Une femme vient. Et lorsque cette femme arrive, Jésus, le plus grand de tous les évangélistes, commence une conversation avec cette femme. Il dit, « Oh femme, donne-moi à boire. » Cette femme, alors que Jésus ne s'est pas présenté du tout, Jésus n'a pas donné son CV, Jésus ne lui a pas donné son passeport pour qu'elle puisse voir là où Jésus est né, pour qu'elle puisse voir de quelle nationalité est Jésus. Jésus a seulement dit, donne-moi à boire. Mais lorsque Jésus a dit, donne-moi à boire, cette femme dit, comment toi qui es juif, comment sait-elle que Jésus est juif? Jésus n'a pas dit, voilà, je viens de Judée. Jésus n'a pas dit, voilà, ma maison, la maison de mon père, c'est en Galilée. Jésus n'a pas dit, voilà, moi je suis un juif de sang, descendant d'Abraham. Il n'a rien dit de tout ça. Tout ce qu'il a dit, donne-moi. Et lorsqu'il dit « Donne-moi à boire », la femme lui répond « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine, mais comment as-tu su qu'il est juif? Comment as-tu su que Jésus est juif? Certainement, j'imagine, par son accent, ou encore par la manière dont il s'était vêtu. Certainement par son accent, sa manière de parler. Vous savez que si quelqu'un, au lieu de dire « élection », dit « érection », on sait déjà d'où il vient, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de se présenter. On sait d'où il vient. Mais comment toi qui es juif, comment tu sais qu'il est juif? Certainement lorsque j'ai entendu sa façon de prononcer les mots, je me suis rendu compte qu'il est juif. C'est une possible interprétation. Tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine. Et Jésus lui dit, oh femme, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce que Jésus est en train de dire à cette femme, femme, moi je demande et c'est toi qui as à me donner parce que tu ne connais pas qui je suis. Le jour où tu connais qui je suis, on va inverser les rôles. C'est toi qui vas demander et c'est moi qui vais donner. Frères et sœurs, ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions arriver à une connaissance de qui il est. Ta façon de t'approcher du Seigneur dépend de comment tu sais qu'il est. Ta façon de demander même au Seigneur dépend de la révélation que tu as de lui. Il dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, tu ne m'aurais pas laissé partir comme ça sans me demander de l'eau. Et moi, je ne t'aurais pas donné cette eau ici. Moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Une eau que tu boirais et qui deviendrait en toi une source qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Si seulement tu connaissais. Le plus grand problème des chrétiens, c'est cela, la connaissance. Le plus grand problème des hommes, c'est ça, la connaissance. Qui est le Dieu vers qui tu t'approches? Et aujourd'hui, nous allons voir comment la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu, nous emmène à changer notre attitude et même nos demandes. Ça, il suffit juste de le connaître un peu plus. Chaque jour qui passe, il te faut le connaître un peu plus. Frères et sœurs, les 24 vierges et les 4 êtres vivants, jour et nuit, disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », n'est-ce pas? Celui qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, 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 là, ça veut dire aussi différent, différent, différent. Parce que c'est chaque jour que le Seigneur leur montre une nouvelle facette de sa personne. Et ils sont là, ils disent, oh, il est différent aujourd'hui par rapport à hier. Demain, il dit encore, oh, il est différent demain par rapport à aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, si jusque-là ta connaissance de Jésus n'est qu'à ce niveau-ci, alors tu ne le connais pas vraiment. Parce qu'il veut que chaque jour tu grandisses dans la révélation de sa personne. Femme, si tu connaissais le don de Dieu, et si seulement tu connaissais qui est celui qui te demande à boire, on aurait échangé les rôles. C'est toi qui aurais demandé à boire, et moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Mais cette femme ne comprenait pas encore. Elle dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau dont tu me parles? Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Cette eau que tu vas me donner là, ça viendra d'où? Et Jésus lui répond. Il dit, femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui-là n'aura plus jamais soif. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau que le monde donne n'étanche jamais la soif. Tu peux aujourd'hui te mettre à boire l'eau de la sexualité. Tu iras de sexe en sexe. Tu n'auras jamais soif, ça ne va jamais te satisfaire. Plus tu le feras, plus tu auras soif de le faire. Aujourd'hui, tu peux avoir 10 000 dollars, vouloir avoir de l'argent. On te donne 10 000, après tu voudras 20 000. Quand tu auras 20 000, tu voudras 40 000. Quand tu auras 40 000, tu voudras 100 000. Quand tu auras 100 000, tu voudras 200 000. Quiconque boit de cette eau aura encore. Le monde ne peut jamais étancher ta soif. Parce que le vide de ton cœur a la forme de Dieu. Et seul Dieu peut remplir ce vide. Le vide de ton cœur n'a pas la forme des choses de ce monde. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas la mode. Ici, c'est un peu différent, mais à Kinshasa, il y a des grands sapeurs, des sapologues. Et aujourd'hui, Kitendi, ils appellent ça religion Kitendi. Religion Kitendi, les vêtements Kitendi. Aujourd'hui, ils peuvent acheter un Yoji, demain, ils vont acheter un, je ne sais pas quoi, un Versace. Parce que quiconque boit de cette eau aura encore soif, quelqu'un a dit Gucci. Ça ne va jamais étancher la soif que tu as au-dedans de toi. Mais Jésus dit, celui qui boit de l'eau que moi, je lui donne. Celui qui boit de l'eau que moi, je lui donne, n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source qui jaillira juste dans la vie éternelle. De quoi il parlait? Il parlait du Saint-Esprit. Il dit, celui qui boit de cette eau, parce que la Bible déclare dans Jean 7, le dernier jour de la fête, il s'est tenu là debout, il dit, que celui qui a soif vienne. Et il le dit le dernier jour de la fête. Les gens ont bu pendant une semaine. Ils se sont enivrés pendant une semaine. Ils ont bu de l'eau, ils ont bu du vin. Ils sont pleins. Jésus dit que celui qui a soif vienne. Mais on a déjà bu toute une semaine. Les Juifs, quand ils fêtaient, ils buvaient comme des malades. Et c'est quand ils sont ivres, ils ont fini de boire. Jésus dit, il y a une autre soif que seul moi je peux étancher. Le vin ne peut pas étancher cette soif. L'alcool ne peut pas étancher cette soif. Les femmes ne peuvent pas étancher cette soif. Les hommes ne peuvent pas étancher cette soif. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, il se tient debout. Que celui qui a soif vienne. Et celui qui boira de cette eau, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et Jean précise, il dit, il parlait du Saint-Esprit qui devait être donné. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné, puisque Jésus n'était pas encore glorifié. Lorsque Jésus parle de l'eau, il parle de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite vraiment en toi, l'une des preuves que tu as l'Esprit de Dieu, c'est la satisfaction par rapport aux choses de ce monde. Tu ne cours plus derrière les choses de ce monde, car tu es déjà rassasié de Jésus. Tu tournes tes pensées vers Christ. Tu tournes tes pensées vers le ciel. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en toi, il ne parle pas de lui, il parle de Jésus. Je m'étonne qu'on ait des chrétiens qui ne connaissent même pas qui est Jésus. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dis à ton voisin Jésus. Non, dis-le lui bien, Jésus. Dis à l'autre voisin de gauche, Jésus. Frères et sœurs, c'est Jésus ou rien. Alléluia. Il y a un chant qui dit, vous pouvez prendre tout le monde, mais laissez-moi Jésus. You can have all this world, but give me Jesus. Tu peux avoir tout le monde, tous les trésors du monde, donne-moi seulement Jésus. Et si j'ai Jésus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ça deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et puis cette femme continue encore. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là, afin que je ne vienne plus puiser ici. Je suis fatigué de venir puiser ici chaque jour. Ça tombe bien. Tu dis que tu as une eau spéciale. Quand tu donnes, tu n'as plus soif. Ça commence à couler au-dedans de toi. Et puis c'est quand tu deviens comme un ruminant d'eau. Ça entre, puis ça remonte. Et puis ça. Donc il dit, donne-moi cette eau-là, afin que je ne vienne plus puiser ici. Et c'est là que Jésus lui dit, va appeler ton mari. Frères et sœurs, lorsqu'on lit bien ce texte, on se rend compte d'une chose capitale. Jésus était en train de faire grandir cette femme dans la connaissance de qui il était. Remarquez qu'au début, Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Jésus s'est rendu compte que le problème de cette femme, c'est le manque de connaissance. Alors Jésus s'est donné le challenge de faire grandir cette femme dans la connaissance de sa personne. Alors, c'est là que cette femme qui regardait Jésus comme n'importe quel homme, n'importe quel juif normal, la première information qu'elle a de Jésus, ce n'est qu'un homme comme tous les autres hommes. Ça, c'est la première information qu'elle a de Jésus. Et lorsqu'elle savait que Jésus n'est qu'un homme comme tous les autres hommes, elle a demandé de l'eau pour qu'elle ne vienne plus puiser. Elle a demandé les choses de ce monde. Ta demande me révèle quelle révélation tu as de Jésus. Ta demande me montre quelle révélation tu as de Jésus. Mais quand Jésus lui dit, va appeler ton mari, cette femme dit, oh, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, ouais, tu as dit vrai. Parce que tu as eu combien ? 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Cette femme dit, oh, je vois que toi, tu n'es pas comme tous les autres hommes. La Bible déclare, je vois que toi, tu es un prophète. Elle a grandi dans la révélation qu'elle avait de Jésus. Avant, elle pensait que Jésus était juste un homme comme tous les autres. Mais cette fois-ci, lorsque Jésus lui démontre un aspect de sa toute connaissance, lorsque Jésus lui donne une portion de son omniscience, elle se rend compte que ce type sait tout. Et puisqu'il sait tout, il ne peut pas être un homme comme tous les autres. Ça doit être sûrement quelqu'un qui a eu une révélation particulière, un contact particulier avec Dieu. Et ça, elle dit, tu n'es pas un homme comme tous les autres, mais tu es un prophète. Là, elle est en train de grandir. Dis avec moi, grandir. Elle est en train de grandir dans la révélation qu'elle a de Jésus. Elle dit, maintenant, je sais que toi, tu es un prophète. Et écoutez maintenant, quand elle dit que toi tu es un prophète, qu'est-ce qu'elle demande à Jésus? Elle dit, nos pères ont adoré sur cette, mais vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Jésus lui répond, oh femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Mais ce que j'aime le plus, c'est que lorsqu'elle a su que Jésus était un prophète, elle n'a plus demandé de l'eau de ce monde. Elle a demandé quoi ? Où devons-nous adorer ? Elle a demandé les choses spirituelles, non plus les choses charnelles. Parce que, je répète, ta demande me montre quelle révélation tu as de Jésus. Si tu demandes les choses de ce monde, je comprends par là que pour toi, il n'est qu'un homme comme tout autre homme. Mais quand tu commences à demander des choses spirituelles, je comprends par là que tu as compris qu'il est un prophète et qu'il n'est pas un homme comme tout autre homme. Si tu demandes les choses que même les autres hommes, frères et sœurs, je n'ai rien contre les demandes des choses de ce monde, mais seulement comme chrétien et comme enfant de Dieu qui grandit chaque jour et qui est appelé à devenir mature, nous ne pouvons pas nous arrêter à ne demander que les choses de ce monde. Il y a des gens à chaque fois qu'ils viennent à l'église, c'est demander le voyage, le mariage et tout ce que vous voulez. Oui, c'est une bonne chose. Mais frères et sœurs, n'y a-t-il pas des hommes dans ce monde qui peuvent te faire voyager, même gratuitement? Il peut même te donner son avion privé. Il dit voyage avec. Si Dieu peut me donner seulement ce que les gens de ce monde peuvent aussi donner, alors en quoi Dieu est Dieu? Si Dieu peut me donner seulement ce que les gens de ce monde peuvent aussi donner, en quoi Dieu est Dieu? J'ai besoin d'argent pour construire une maison. Mais connais des gens qui peuvent même maintenant te faire un chèque de 2 millions de dollars. Si Dieu peut me donner seulement ce que les gens de ce monde peuvent donner, en quoi Dieu est Dieu? En quoi Dieu est Dieu? En quoi Dieu est Dieu? Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Oui, demande. Mais ce que tu demandes me montre la révélation que tu as de lui. Quand elle s'est rendue compte que Jésus est un prophète, cette femme est venue dire, pasteur, où devons-nous adorer? Cette fois, ce n'est plus les choses de ce monde. Cette fois, c'est les choses spirituelles. Où? Jésus lui répond, il dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Cette femme est une Samaritaine. Jésus, c'est... Ah, Jésus est exceptionnel. Alléluia. Non, Jésus est mystique, hein. Aramukolo, hein? Comment dire, Jésus est fantastique. Je peux parler de Jésus du matin jusqu'au soir sans me fatiguer. Parce que Jésus, il est merveilleux. Jésus sait que cette femme est une Samaritaine. Dans 2 Rois 17, on a lu quoi? Il y avait des peuples qui sont venus en Samarie, qui se sont installés et qui ont commencé à rendre culte à leur Dieu. De telle sorte que Dieu, le souverain, le vrai Dieu, a envoyé des lions pour les dévorer. Et quelqu'un est venu dire à ces peuples-là, il dit, si vous êtes dévorés comme ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la règle du Dieu du pays. Il dit, envoyez un prêtre pour venir vous enseigner la règle du Dieu du pays. Mais la Bible cite 5 nations qui étaient venues en Samarie et qui se sont installées en Samarie et qui ont commencé à offrir 5 cultes à des dieux païens. Chaque nation avait son culte pour son Dieu ou pour ses dieux. 5 nations sont venues en Samarie et ont offert 5 cultes à des dieux païens. C'est pour cela que ce jour-là, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, il dit, va appeler ton mari. Cette femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, oui, car tu as eu 5 maris. Parce que Jésus sait que c'est une Samaritaine. Jésus sait que c'est une Samaritaine. Jésus sait qu'il y a eu 5 nations et 5 cultes différents en Samarie. Il dit, oui, chaque Dieu que tu adores est ton mari. Tu as eu 5 maris. Il dit, mais celui que tu as maintenant n'est pas encore ton mari. C'est qui maintenant celui que tu as maintenant? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler ce soir? Jésus dit, tu as eu 5 maris. Samaritaine. Samaritaine. Il fait référence aux 5 cultes non-juifs rattachés à l'origine du culte samaritain. Tu as eu 5 maris, femmes. Et celui que tu as maintenant, oh my God. Il dit, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est qui celui que tu as maintenant? Celui que tu as maintenant, c'est celui qui est en train de te parler, femme. Il n'est pas ton mari, pourquoi? Parce que Jésus est notre fiancé, le mariage n'est pas encore organisé. Les noces de l'agneau ne sont pas encore organisées. C'est pourquoi la Bible déclare. La Bible déclare, il nous a donné quoi? Les arts de l'esprit. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Les arts de l'esprit, là, c'est quoi? C'est un acompte. C'est comme un gage qu'un fiancé donne à sa fiancée. Pour dire, Nakoba layo vraiment. Mais pour te prouver que Nakoba layo, zoaba giangoyo. Et le mot là, art de l'esprit, dans le grec moderne, ça veut dire la bague de fiançailles de l'esprit. Il n'est pas encore ton mari, il est ton fiancé. Alléluia. Alléluia. Et cette femme se rend compte, je vois que toi tu es un prophète. Je vois que toi tu es différent des autres hommes que j'ai eu à rencontrer. Je vois que toi tu es exceptionnel. Et cette femme dit, je sais que le Messie viendra. Et lui, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Oh my God. Jésus, c'est un phénomène. De telle sorte que cette femme a grandi en une fraction de minute dans sa révélation de qui était Jésus. Avant, elle a su seulement qu'elle était un homme comme tous les autres. Et elle a demandé les choses de ce monde. Et puis quand elle a grandi elle a vu qu'il est un prophète, il est différent des autres. Elle a demandé les choses spirituelles. Mais quand elle a encore un peu grandi, elle a su maintenant qu'il est le Messie. La troisième révélation de la personne de Jésus, le Messie. Le Messie, c'est-à-dire quoi? Le Messie, c'est-à-dire le sauveur du monde. Le Messie, c'est-à-dire quoi? Le Messie, c'est-à-dire celui qui est venu nous détacher des ténèbres pour nous emmener à la lumière. Le Messie, c'est-à-dire quoi? Comme la femme lui-même a dit, elle dit, le Messie viendra et il nous annoncera tout. C'est celui qui est venu nous révéler tous les mystères de la divinité. Le Messie, c'est-à-dire celui qui est venu pour nous sauver du monde. Le Messie, c'est-à-dire celui qui est venu pour m'arracher de la vie du péché et pour m'introduire dans la vie de la sainteté. C'est ça que veut dire le Messie. Alors quand elle savait que Jésus était un homme, elle a demandé l'eau de ce monde. Quand elle a compris que Jésus était un prophète, elle a demandé les choses spirituelles. Mais quand elle a compris que Jésus était le Messie, qu'a-t-elle demandé? Quand elle s'est rendue compte que Jésus est le Messie, qu'est-ce qu'elle a demandé? La Bible montre qu'elle n'a plus rien demandé. La Bible montre même qu'elle était venue avec sa cruche, avec sa jarre. Mais quand elle a su que Jésus était le Messie, elle a laissé tomber sa jarre. La Bible déclare, elle est vite partie en Samarie pour évangéliser. Et pour dire, venez, venez écouter celui qui m'a tout dit. J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé le sauveur du monde. Frères et sœurs, nous sommes comme cette femme. Il nous faut grandir. Et lorsque nous grandissons et que nous réalisons que Jésus est le sauveur du monde, alors ce qu'il nous faut faire, c'est de laisser tomber nos occupations et d'aller évangéliser. D'aller dans la rue et dire, Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ, c'est celui qui a changé ma vie. Viens à Jésus et il va te changer. La plupart d'entre nous, nous n'évangélisons pas. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas. Si nous le connaissons vraiment, alors nous comprendrons que Luc 19, verset 10 nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, nous sommes comme le fils aîné. Alors que le petit frère s'est perdu, au lieu d'aller à la recherche du petit frère, on se contente de rester dans la maison du père. Ça sert à quoi d'être dans la maison du père alors qu'il y a des gens qui sont perdus dans le monde? Où est le petit frère perdu? Pourquoi est-ce que tu ne le ramènes pas à la maison? Cette femme a compris que s'il est le Messie, alors le but premier de son cœur, le désir profond de son cœur, c'est de sauver des âmes. Au début, elle est venue avec ses requêtes à elle. Elle est venue avec ses problèmes à elle pour les exposer à Jésus. Donne-moi de l'eau ou devons-nous adorer. C'est ses problèmes à elle. Mais quand elle a su qu'il est le Messie, elle a laissé ses problèmes. Elle a pris le problème du cœur de Dieu. Elle a dit cette fois-ci, Dieu, laisse-moi te satisfaire. Tu veux des âmes? Je vais te trouver des âmes. Tu veux que des vies se convertissent? Je vais les trouver pour toi. Lorsqu'on est enfant dans les choses de Dieu, on vient, on expose son cœur à Dieu. Lorsqu'on commence à grandir dans les choses de Dieu, on regarde quel est le problème du cœur de Dieu. On veut résoudre ce problème. Le vrai problème du cœur de Dieu, c'est de sauver une âme qui s'est perdue. La plus grande demande que Dieu nous fait, c'est d'être des gens qui parlent de Jésus. Cette femme n'a pas dit quelque chose de compliqué. Tout ce qu'elle a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est lui le Messie? Et les gens sont venus en cascade. Frères et sœurs, quelle est la dernière fois que tu as ramené une âme à Jésus-Christ? Une seule. Depuis que l'année a commencé, as-tu ramené une âme à Jésus-Christ? Nous sommes là perdus dans des conflits bêtes dans l'église. Comme cette femme, elle était perdue dans des conflits bêtes. Où devons-nous adorer? Est-ce que c'est sur le mont Garizim ou c'est à Jérusalem? Beaucoup de débats théologiques inutiles. Oh non, les catholiques disent que c'est ça. Les protestants disent que c'est ça. Oh nous, les pentecôtistes, on dit que c'est ça. Mais qui a raison? Qui a tort? Tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est d'être un vrai disciple et de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. Frères et sœurs, la Bible déclare que lorsque Jésus est monté vers le ciel, il a fait des dons aux hommes, n'est-ce pas? Et il a donné aux uns d'être quoi? Apôtres. À d'autres d'être prophètes. D'autres encore d'être évangélistes. D'autres d'être pasteurs. Et d'autres d'être des enseignants, des docteurs. Cinq ministères, n'est-ce pas? Cinq ministères, on est d'accord? Cinq ministères dans le corps du Christ. Pourquoi? La Bible dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Afin que nous ne soyons plus comme des petits enfants, ballottés par tout vent de doctrine. Cinq ministères qu'il a placés dans l'Église. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle David. Lorsqu'il est descendu pour combattre Goliath, la Bible déclare, David a pris cinq pierres. Et les cinq pierres que David a prises, la Bible déclare, il les a mises dans sa gibecière. Cette gibecière, c'est comme l'image de l'Église corps du Christ. Jésus a pris les cinq ministères et il les a mises dans sa gibecière. Mais écoutez la bonne chose que je sais. Dans ce combat entre David et Goliath, David était incirconcis. Il était incirconcis, c'est-à-dire il était un juif. Mais Goliath était un incirconcis, c'est-à-dire il était un païen. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'il faut évangéliser. C'est quelqu'un qu'il faut gagner à Dieu. Mais écoutez ce que David a fait. David, sur les cinq pierres qui étaient dans sa gibecière, il a sorti une pierre. Et il a lancé cette pierre qui a cogné Goliath au front et Goliath est tombé. Il est temps que le ministère évangélique apprenne à sortir de l'église pour aller rencontrer des Goliath dans la rue et les faire changer de style de vie. Il est temps que Dieu élève une génération qui ne se contente pas d'être dans la gibecière, mais une génération qui, comme la pierre de David, sort de la gibecière et va chercher un païen, va chercher un Goliath, va chercher un incirconcis pour le ramener à la maison. Parce que laissez-moi vous dire une chose, nous sommes bien ici dans le parc. Nous sommes bien ici entre nous, frères et sœurs. Nous sommes bien ici en train de parler, en train de chanter, en train de louer. Mais laissez-moi vous dire que ce jour-là, Pierre était dans la barque. Jean était dans la barque. Jacques était dans la barque. André était dans la barque. Ils étaient sûrement en train de s'édifier aussi, de parler des choses de Dieu. Mais Jésus n'était pas dans la barque. Jésus était sur les eaux, en train de marcher sur les eaux. Il est possible que nous soyons ici alors que le cœur de Dieu est dans la rue. Il est possible que l'on soit tous ici assis, en train de s'édifier, alors que le cœur de Dieu est vraiment là-bas dans la rue. Et Jésus est en train de dire à un Pierre, viens sur ma parole, viens, viens Pierre. Je prie qu'il y ait un Pierre aujourd'hui qui prend la décision de sortir de la barque et d'aller dans la rue là où Jésus est. Le miracle, ce n'est pas d'être assis dans la barque. Le miracle, c'est de marcher sur les eaux. Et tu ne peux pas vivre le miracle si tu te contentes d'être assis dans la barque. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'on accompagne quelqu'un qui est assis? Non, on accompagne quelqu'un qui marche. Si tu veux que les miracles t'accompagnent, ne sois pas assis. Lève-toi, commence à marcher dans les rues, commence à prêcher Jésus. Et tu verras que les aveugles voient toujours, que les paralytiques marchent toujours. Ah oui, que les sourds entendent toujours, que les muets parlent toujours, que les morts ressuscitent toujours au nom de Jésus-Christ. Il est important, frère, que nous puissions arrêter de nous battre pour des postes à l'église. Il est important que nous puissions arrêter de nous battre pour les cultes de dimanche qui va prêcher. Mais pour la terre, il y a là-bas dans la rue beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il est important que Dieu puisse faire lever une génération évangélique. Je suis en train de dire des choses sérieuses. S'il vous plaît, mes sœurs, arrêtez de vous toucher. Je ne suis pas venu blaguer. Il est important qu'un peuple nouveau puisse se lever avec une mentalité nouvelle. Le ministère, ce n'est pas seulement l'église locale. Le ministère, c'est les nations. C'est les peuples. C'est les villages. C'est les villes. C'est les cités. C'est pour ce Jésus-là que moi j'ai tout abandonné. On nous traitait de tous les mots à l'université. Parce que chaque pause, durant chaque pause, je sortais, j'allais là où ces païens-là des universités, de l'université en train de boire et de manger. Je leur demandais, donnez-moi seulement 5 minutes, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Ils pensaient peut-être que Obama était devenu président pour la 3e fois aux États-Unis. C'est quoi cette bonne nouvelle que tu veux nous annoncer? Je leur disais, Jésus sauve toujours, abandonne ta vie de péché. On nous a traités de tous les mots. Ah, on a pasta, ah, asota, asota. Oui, nasota, nasota, masum, makas. On a fait des actions, on a dépensé de notre argent, des milliers de dollars, juste pour qu'une seule âme vienne à Jésus. Ça en vaut la peine. Ah, je prie que la prochaine édition du Café Chrétien se passe, pourquoi pas, dans la rue. Pourquoi pas une grande campagne d'évangélisation dans la rue où on prêche Jésus et les âmes viennent à Jésus. Nous leur demandons de venir dans l'église alors que Jésus n'a jamais dit, dites-leur de venir. Jésus a dit, vous, allez. Jésus n'a jamais dit, dites-leur de venir dans vos conventions. Il a dit, vous, sortez de vos conventions, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous, allez. Et le allez là, ça ne veut pas dire, vous êtes assis, levez-vous et partez. Dans le grec, ça veut dire, étant parti, faites de toutes les nations mes disciples. Oh my God. Ce n'est pas allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais dans le grec, ça se lit comme ça. Étant parti, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire quoi? Jésus dans sa tête, il n'a pas une image d'une église assise. Jésus a une image d'une église dynamique qui est déjà en train de partir vers les païens. C'est pourquoi il ne dit pas allez et faites. Il est en train de dire étant parti, puisque vous êtes déjà en train de partir, alors la fête dans la tête de Jésus, l'église est en mouvement. Mais aujourd'hui l'église est là, statique, en train de rien faire. Lève-toi, pars! Et fais de toutes les nations ses disciples. Frères et sœurs, Paul dit, je ne mentionnerai rien d'autre que ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie pour ramener les païens à l'obéissance. Et puis il cite, il dit par mon enseignement, par des miracles, par des prodiges, par la puissance de Dieu. En d'autres termes, Paul veut dire, l'enseignement qu'il prêchait, les miracles qui se manifestaient, les prodiges qui se manifestaient par son ministère, la puissance de Dieu qui était libérée par son ministère, le but c'était de ramener les païens à l'obéissance. Tu veux vivre les miracles? Accepte de partager la bonne nouvelle. C'est là que tu verras les vrais miracles. C'est là que tu verras que Jésus-Christ est fidèle. C'est là que tu verras que Jésus-Christ fait encore les choses qu'on lit dans les actes des apôtres. Là. C'est là que ton Dieu va sortir de ta Bible pour devenir ton Dieu personnel. Et il va commencer à marcher avec toi et tu vas écrire le 29e chapitre des actes des apôtres. Parce que tu commenceras à poser des actes dont les générations futures parleront. Parce que Jésus-Christ est le même. Les miracles qui se font, c'est pour ramener un païen à l'obéissance. Je prie qu'il y ait un peuple, des gens qui prennent conscience, qui se lèvent et qui disent, Seigneur, je vais marcher et je vais faire ce que tu me demandes de faire. Lorsque je préparais ce café chrétien et que j'étais en train de prier, Dieu a mis cette pensée dans mon cœur pour vous dire, réveillez. Vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? réveillez-vous. Cette femme a laissé tomber sa jarre pour aller évangéliser. Cette jarre représente ses problèmes. C'est qu'elle voulait puiser de l'eau dans cette jarre. Ses préoccupations, elle les a tout laissé tomber pour aller servir son maître. Qu'est-ce que tu dois laisser tomber? Chacun de nous a ses projets personnels, ses ambitions personnelles. Cette femme a dit non, ça ne vaut pas la peine. Une âme. Et je prie que Dieu te donne d'évangéliser même là où tu es, même dans ton boulot, même dans ta société, même dans ton école, même dans ton université. Que Dieu te donne de parler de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend ça. Et c'est là que Jésus dit à la femme, aux disciples, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson, mais levez les yeux et regardez, là, les épis sont déjà blancs et le moissonneur est déjà en train de recevoir un salaire pour son œuvre. Un jour, un homme de Dieu est en train de prêcher dans une église. Pendant qu'il prêchait un peu comme ce soir, il a fait un appel, je me suis avancé. Alors que je me suis avancé, j'ai eu une vision claire dans mon esprit. Je ne voyais plus l'église, je ne voyais plus les gens qui étaient à côté. Mais j'étais comme téléporté dans un désert. Et que j'ouvrais les yeux, mes yeux étaient vraiment ouverts, mais je ne voyais que un désert. Et je voyais tout un tas de personnes, des milliers de personnes, en train de courir et d'entrer dans un trou. Il y avait un grand trou dans ce désert-là. Ils couraient et ils entraient. Et Jésus était juste à côté de moi. Ils couraient et ils entraient. Et j'ai dit, mais Jésus, mais interdis-leur d'entrer, parle-leur. Il m'a dit, Lord, moi j'ai déjà fait ma mission. Maintenant c'est à ton tour de parler. Si tu ne parles pas, leur sang sera sur ta tête. Et ce jour-là, je suis tombé. Je me suis réveillé, j'étais dans la chaudière, on priait pour moi. Mais cette vision est restée dans mon esprit. Elle dit, si tu ne parles pas, leur sang sera sur ta tête. Jésus parle, il dit non, c'est à toi de parler. Moi j'étais sur terre et j'avais parlé. Maintenant c'est ton tour. Je prie que quelqu'un apprenne à ouvrir sa bouche et à parler de Jésus. Ce soir, j'aimerais qu'on prie. Alors qu'on me donne un son de synthé. On va faire 2 prières et après on va se séparer. Ce soir, premièrement, alors que tu es en train de fermer ton cahier, fermer ton stylo, remettre ça dans le sac, que rien ne puisse te distraire en ce moment, moi je crois que Goma tout entière peut être sauvée par l'évangile. Quelqu'un n'a pas dit amen, il y a beaucoup d'incrédules ici apparemment. Dans les actes des apôtres, la Bible me dit plusieurs fois, toute une ville s'est convertie à Jésus. On va prier, on va dire, Seigneur, sauve une âme. Et quelqu'un va même mieux le dire, il va dire, Seigneur, utilise-moi pour ramener quelqu'un à la maison. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier.
Jésus.
Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît, en chantant ce chant? Et moi,
J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi.
Et moi.
Et moi.
Et moi.
Je suis perdu sans toi.
Je suis perdu sans toi.
Et moi.
Et moi.
J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi.
Et moi.
Et moi. Je suis perdu sans toi.
Je suis perdu sans toi.
Je suis perdu sans toi.
Et moi.
Et moi.
Et moi.
J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi.
Et moi, et moi, et moi, et moi.
Je suis perdu sans toi.
Je suis perdu sans toi.
Et moi.
Je ne peux rien,
je ne peux
sans toi,
je ne suis rien, je ne suis rien.
Sans toi,
je ne peux rien, je ne peux rien.
Sans toi,
je ne suis rien, je ne suis rien.
Sans toi,
je ne peux rien, je ne peux rien.
Sans toi,
je ne suis rien, je ne suis rien.
Sans toi,
je ne peux rien, je ne peux rien.
Je ne suis rien sans toi.
Je ne peux rien.
Je...